matin.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est 4h57, nous sommes le 3 mai 2019. C'est un bonheur indicible que de vous retrouver en compagnie d'Eva Rock et de Céline Dacosta. Bonjour mesdames.
Bonjour.
D'autant qu'il a beau être 4h57, on démarre la journée par une très très bonne nouvelle. Europe 1 était en mesure de vous révéler l'info dès hier.
Et demain c'est vendredi.
Oh, aujourd'hui c'est vendredi.
Et il va faire froid, et il va pleuvoir.
Alors Céline, bon, c'est vendredi certes, ouais. Mais côté ciel, il n'y a pas de quoi se réjouir.
Hein. Il va faire froid, il va pleuvoir.
Elle aime son tube. Elle est sa première fan,
oui.
C'est ça qui est très fort avec Céline.
C'est un jukebox, elle toute seule.
Encore des nuages, de la pluie, c'est vrai, et les températures qui commencent à baisser, et demain
mais
ça va être pire.
Mais ça n'a
demain,
aucun sens. On est en mai, on s'approche de l'été, vous me dites que les températures commencent à baisser. Je n'aime pas cette phrase.
Le temps n'a aucun sens, en mai, faites ce qui vous plaît. Non, mettez une doudoune.
Ne vous découvrez pas d'un fil, même si ça ne rime pas. À vos côtés, Céline, son sourire méditerranéen va chasser les nuages.
Nous n'aurons plus jamais un seul jour de pluie.
C'est aujourd'hui 3 mai, sa journée, puisque c'est la journée mondiale du soleil. Eva Rock, bonjour.
Vous saviez que j'allais fêter la journée du soleil,
hein.
Vous saviez
que j'étais un soleil. Moi aussi, je regarde les journées mondiales.
Hein. Bah, oui, mais
pour préparer
pensais...
mon intro,
oui,
elle mais... commence à comprendre le concept de l'émission. Ouais. Écoutez, bah, c'est bien simple, vous êtes absolument radieuse, vous rayonnez. Hein, Céline, si on met de côté les petites jalousies entre collègues, faut l'avouer, Eva est sublime en ce moment.
Elle est quand même sacrément...
Oui.
Comment dire ça?
Non.
Masculine.
Oula.
Non, puis là, on dirait qu'elle sort de prison.
Bon, alors, donc, Eva, quelle question avez-vous choisi de poser à nos auditeurs aujourd'hui?
C'est la journée du soleil. Quand on vous dit le mot soleil, vous pensez à quoi? Vous nous répondez sur Twitter avec l'hashtag Europe 1.
Il aurait peut-être fallu commencer par expliquer pourquoi il y avait une journée du soleil et en quoi c'était... Enfin,
et en fait, il n'y a pas d'explication.
Ça paraît saugrenu. Ah, il n'y a pas d'explication?
Il n'y a pas d'explication.
C'est vraiment aussi inintéressant qu'on aurait pu le croire.
Non, mais il y a une journée de la mer, voilà,
moi,
etc.
Oui, d'accord. Moi, j'ai
une journée du soleil. Le 3 mai, c'est bien, paf.
Paf.
Voilà, paf, paf le soleil.
Très belle explication, Céline Dacosta. Aujourd'hui, mesdames, nous fêtons non seulement la journée du soleil, mais aussi, et c'est peut-être quand même un peu plus important, la journée mondiale de la liberté de la presse. Dans de nombreux pays, cette liberté, vous le savez, recule. Des journalistes se trouvent dans l'incapacité d'exercer leur métier, brimés ou menacés par un pouvoir autocratique, censurés. Certains voudraient sortir un scoop, mais on les fait taire. Moi, par exemple, je sais des choses sur Don Chibro, l'amant mexicain des Varocs, des choses qui m'affoient...
Ne dites rien, ne dites rien, mais ne dites rien quand même. Non mais chut.
Ah ben voilà, et ben voilà, ne baissons pas la garde, battons-nous pour le droit d'informer. Vous écoutez... Debout les copains qui est à la radio, ce que la hawaïenne est à la pizza, de beaux morceaux de fantaisie sur une base d'infos classique. Bref, Eva.
De l'ananas sur une pizza.
Bon appétit, debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le vendredi 3 mai, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à notre écoute, il est 5h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce vendredi 3 mai, c'est avec vous Jérôme Lacroix. Bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres,
que
Jérôme.
Que s'est-il réellement passé avant-hier après-midi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Des manifestants du 1er mai ont investi les lieux. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé une attaque. A-t-il parlé trop vite? Des images vidéo semblent contredire sa version. Europe 1 a reconstitué le fil des événements. Nous irons à Windsor constater cette savoureuse impatience bien britannique. Le royaume attend l'arrivée du Royal Baby, l'enfant de Harry et Meghan Markle. Et puis la Coupe du Monde de foot féminin est lancée. Ça y est, la sélectionneuse Corinne Diacre a dévoilé la liste des joueuses retenues. Pas de Marie-Antoinette Katoto, espoir du PSG. Début de la compétition en France le 7 juin.
Europe 1.
Monsieur Castaner est un menteur en plus d'être un incompétent, a lancé hier à Marseille Jean-Luc Mélenchon. L'opposition demande des explications au ministre de l'Intérieur accusé de jeter de l'huile sur le feu après l'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris de manifestants en marge du cortège du 1er mai. Dès avant-hier, Christophe Castaner parlait d'attaque, mais des images tournées par le personnel semblent infirmer la version du ministre. Plusieurs témoins avancent que ces manifestants auraient cherché à se réfugier dans l'hôpital pour échapper aux charges de la police ou aux gaz lacrymogènes. Jean-Jacques Héry.
La vidéo est filmée depuis l'intérieur du service de réanimation par un membre du personnel soignant. On aperçoit dans la cour de l'hôpital plusieurs dizaines de personnes qui patientent dans le calme. Soudain, on voit un autre groupe de manifestants arriver en courant à droite de l'écran et semblant visiblement fuir l'arrivée de la police. Panique, confusion. Dans le mouvement de foule, plusieurs dizaines de personnes se mettent à courir et montent brusquement sur la passerelle menant au service de réanimation. Lorsqu'elles parviennent en haut, au niveau de la porte vitrée, le personnel soignant leur dit de ne pas rentrer. Un dialogue difficile s'engage.
Il y a des malades.
Non, il y a des malades. Il y a des malades.
Il y a des malades.
C'est sérieux?
Non, non. C'est la réanimation. C'est la réanimation.
La séquence ne dure que quelques minutes en tout. Certains tirent sur la poignée. Il y a quelques coups portés sur la porte. Mais durant ce court laps de temps, personne ne tente véritablement de forcer l'accès rapidement. Des motards de la police arrivent sur place. Seuls deux d'entre eux montent sur la passerelle. D'où les manifestants finissent par descendre un à un dans le calme. Si certains d'entre eux portent des gilets jaunes, aucun n'apparaît masqué.
Les explications de Jean-Jacques Herry. Pour Europe 1, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris hier. Les 32 gardes à vue ordonnées ont été levées.
Europe 1, il est 5h03.
Le permis de conduire bientôt moins cher de 30% annonce hier de 10 mesures. Réduction des coûts via notamment plus d'apprentissage sur simulateur ou encore la gratuité du code en cas de participation au service national universel. Le permis coûte en moyenne aujourd'hui 1 800 €. Deux semaines après la chute d'un arbre dans une cour d'école de Bessens dans le Tarn-et-Garonne, les parents de l'un des enfants blessés ont porté plainte, annonce la députée. Pêche du midi ce matin, plainte contre X pour blessures involontaires. Leur fils de 8 ans a été amputé de la jambe droite. Les quatre hommes arrêtés car soupçonnés de préparer un acte terroriste avaient effectué des repérages autour de l'Elysée. Potentielle cible, les policiers en position devant le palais présidentiel. Un commissariat d'Aulnay-sous-Bois a également fait l'objet de repérages. Et puis la stupéfaction de tout un quartier de la ville d'Aniche dans le Nord. Un adolescent de 15 ans a été tué par balle à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi. Un jeune homme a été placé en garde à vue.
Un mois et demi après les attaques contre deux mosquées en Nouvelle-Zélande, le bilan s'alourdit.
51 morts, un homme de 46 ans est mort hier des suites de ses blessures. Sa famille a demandé que son identité ne soit pas révélée. Direction Windsor, près de Londres, la couronne britannique en effervescence dans l'attente du Royal Baby. L'enfant de Harry et Meghan Markle doit venir au monde dans les tout prochains jours. Certains pensent même qu'il est déjà né, garçon ou fille. Quel prénom pour certains, l'attente est trop longue. Reportage à Windsor, Anaïs Cordoba.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, we have a royal baby on the way.
Dans les rues de Windsor, Tony Appleton, le célèbre crieur public habillé en costume d'époque, trépigne d'impatience en espérant l'annonce de la naissance.
Moi je pense que ce bébé est déjà né il y a deux jours. Meghan aime bien nous faire attendre et après elle va sûrement l'annoncer sur Instagram. Mais c'est comme ça, il faut respecter leur décision.
Il n'est pas le seul à attendre. Suzanne, une touriste américaine, arrive de Philadelphie pour visiter Windsor et elle espère vraiment que la nouvelle tombera pendant son séjour.
On adore la famille royale, donc c'est super pour nous d'avoir un lien désormais avec la monarchie britannique. J'espère que ce sera une fille et qu'elle s'appellera Diana.
Diana est en tête chez certains bookmakers qui affichent aussi dans leur top 10 des prénoms américains, ce qui ne plaît pas du tout à John, fan inconditionnel de la monarchie, qui déploie des banderoles de félicitations sur le trottoir.
Garçon ou fille, nous ne voulons pas de nom américain. Il faudrait un prénom royal et britannique. Si c'est une fille, ce serait super qu'elle s'appelle Elizabeth, comme la reine.
Les parieurs misent massivement sur une petite fille. À sa naissance, elle ou il sera 7e dans l'ordre de succession au trône. Windsor, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Et le couple a déjà prévenu que le bébé ne serait présenté que quelques jours après la naissance afin de pouvoir profiter de ce moment dans l'intimité. Et puis on a
Savez mon sentiment personnel, je suis très excité. Très excité sur la naissance du Royal Baby. Ouais. J'ai envie de vous dire... Mais vraiment, ça n'engage que moi, hein, cela dit. Hein, voilà, mais je tenais à vous le dire.
Ça passionne des millions de personnes partout dans le monde. On a appris cette nuit, Mathieu, par ailleurs, le décès de Peter Mayhew, acteur dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais son rôle le plus célèbre, c'est celui de Chewbacca. Sa meilleure réplique extraterrestre, poilu, bien sûr, de la saga Star Wars. Il avait 74 ans. Il mesurait 2,21 m, ce qui lui avait valu ce rôle qu'il avait assuré de 1977 à 2015.
Oh la vache, Eva vient de comprendre.
Je comprenais pas.
Oui, il y a quelqu'un dans Chewbacca. Vous savez que Chewbacca n'existe pas. En fait, les Wookiees, en fait, n'existent pas. Vous n'en trouverez nulle part. C'est un personnage inventé.
J'avais compris qu'il y avait quelqu'un dans Chewbacca. Je pensais que c'était plusieurs personnes. Vous voyez qu'il n'y avait pas un seul acteur qui allait interpréter Chewbacca.
Dans Chewbacca. Non, c'était une seule personne, mais elle était très grande.
2,21 m. Il a arrêté en 2015.
2,21 m. Et il aurait pu aussi avoir une carrière dans le basket. On passe au journal des sports.
J'ai une photo avec Chewbacca.
Alors, vous avez une photo avec Chewbacca, il est 5h06 sur Europe 1. Qu'est-ce que vous nous racontez, Eva ?
Parce que Chewbacca est venu à Europe 1. On était encore à rue François 1er.
Dans les années 70,
pas dans les années 70, quand le dernier épisode est sorti.
C'est vrai.
Et donc, j'ai une photo avec Chewbacca. Oui, je l'ai rencontré.
Et vous avez son 06 ?
Non, j'ai pas son 06. Mais non,
maintenant, c'est un peu tard.
Très bien. À la une du journal des sports, donc, Jérôme Lacroix, un choix fort.
Oui, un choix fort. Le choix de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de foot, pour disputer le mondial. Organisé en France à partir du 7 juin, elle choisit de se passer d'une jeune espoir. Meilleure buteuse de D1, 22 buts. Elle s'appelle Marie-Antoinette Katoto. Elle a 20 ans. Un talent parfois comparé à Kylian Mbappé chez les garçons. L'absence de Katoto, c'est la surprise de la liste dévoilée hier soir. Elle manquerait cette joueuse encore de maturité et ses dernières prestations en bleu n'ont pas convaincu la sélectionneuse. Sinon, par ailleurs, pas de surprise, on retrouve la défenseur Wendy Renard, la milieu et capitaine Amandine Henry. Corinne Diacre les appelle toutes désormais à l'investissement maximal.
Écoutez, je pense que les 23 qui ont été sélectionnées ce soir sont plutôt heureuses. Après, il y a des choix qui sont faits. Le choix de la liste m'appartenait, je l'ai fait, je l'assume. À partir du prochain rassemblement, il faudra que l'on aille toutes et tous dans le même sens. Et si ça pose problème à quelqu'un, la joueuse est en droit de venir me voir et de me dire que ça ne lui convient pas. Et à ce moment-là, elle laissera sa place. Tout simplement.
Et début de la préparation mercredi prochain, rassemblement à Perros-Guirec en Bretagne. Ils suivront deux matchs de préparation, France-Thaïlande le 25 mai à Orléans et France-Chine le 31 à Créteil. Premier match donc de ce mondial le 7 juin. France-Corée du Sud au Parc des Princes. Les garçons et deux buts hier soir de l'attaquant français d'Arsenal Alexandre Lacazette. Les londoniens battent à domicile Valence 3-1 en demi-finale aller de la Ligue Europa. Dans l'autre match, la seconde demi-finale aller, le Chelsea de Giroud et Kanté ramène un bon nul 1-1 de Francfort. Match retour jeudi prochain.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
97, au tournoi de Bordeaux, deuxième division. Le bleu du tennis, Lucas Pouille, est en train d'obtenir ce qu'il était venu chercher. Des victoires et de la confiance. Il a enfin mis fin à une série de 97 jours sans victoire. Il vient d'aligner deux succès pour se hisser en quart de finale, tout comme Joe Wilfried Tsonga.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports. Et Eva, je crois que votre amant a un message pour vous. Visiblement, il a beaucoup aimé ces quelques heures passées en votre compagnie.
Moi, je le comprends.
Et nous aussi.
Europe 1. Il est 5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, selon le vendredi est le jour idéal pour prendre une grande résolution. Et si vous changez de vie, chers amis, et si lundi vous entriez dans le bureau de votre patron vêtu d'un simple slip fluo en chantant
au revoir, président.
Bon,
au
revoir. Bien, bien.
Pas besoin de gagner au loto pour ça, il suffit de se décider à changer de vie. Certains l'ont fait, Europe 1 leur donne la parole chaque matin. Aujourd'hui, rencontre avec Emmanuel, un journaliste devenu herboriste.
Tu m'as pas pris de joint ?
Non, vous voyez avec Emmanuel, Céline.
Il est 5h10, Mathieu Noël.
Parlez-nous de la pluie et du beau temps, Céline Dacosta.
Oui, surtout de la pluie.
À quoi ça tourne pour ce week-end ?
Eh bien, déjà pour aujourd'hui, une journée mitigée avec au milieu de tout ça, au milieu de ces nuages et de cette pluie, encore quelques éclaircies tout de même. Hein. Les averses les plus fréquentes, elles s'étendent ce matin du sud-ouest au nord-est. Et puis cet après-midi, on va les retrouver des Pyrénées aux Alpes. Pardon, on a également de la neige hein, sur les Pyrénées, les Alpes et le Massif central. 10 à 20 cm quand même sur les Pyrénées, 5 à 10 sur les Alpes. Un épisode de neige tardive qui n'est pas exceptionnel mais qui se fait plutôt rare depuis les années 2000. Et puis on va perdre encore quelques degrés cet après-midi. Le week-end sera dans la même veine avec des températures qui vont baisser et peut-être quand même un petit peu plus de soleil pour dimanche.
Ça ne m'intéresse pas, je vous coupe. Je ne veux pas entendre ça, je me bouche les oreilles. D'accord. Eva Rock.
Mais justement, parlons soleil, c'est la journée du soleil. Dont,
même si on ne sait toujours pas à quoi ça sert.
Exactement, dites-nous à quoi vous pensez quand on vous dit le mot soleil sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Sébastien nous dit, je pense tout de suite à 1, 2, 3 soleil, le jeu quand on était enfant. Mais il pense aussi vacances, mer, sable fin, transat et mojito.
Moi, c'était la Game Boy, le jeu, quand j'étais enfant.
Mais oui. Ah bon ?
Chacun son enfance.
Ah oui, d'accord. Bon, non, à 4 ans, vous ne jouiez pas à la Game Boy, enfin. Et Sly Boite et Olivier ont pensé à une chanson, celle qu'on adore aussi.
Emmanuel comme un soleil, Emmanuel toujours plus belle.
Avec une grande pensée pour Emmanuel Maubert.
Une pensée pour Emmanuel Maubert qui avait déclenché cette chanson, qui avait relancé, qui avait donné une deuxième vie, on peut le dire, à cette chanson et beaucoup de droits d'auteur pour François Valéry.
Au 5-7.
Exactement, Emmanuel, mais c'est vrai, mais vous savez, je l'avais oublié.
Et ben voilà.
Emmanuel qui présentait le 5-7 de manière avec sa voix fabuleuse, bien plus chaleureuse que la mienne. C'était toute une époque, effectivement. On l'embrasse. Merci Eva et merci à vous.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos, de gaieté, mais aussi de prise de conscience. Changer de vie, beaucoup en rêve, peu passe à l'acte. Ceux qui l'ont fait sont sur Europe 1 chaque matin dans Fallait oser. Aujourd'hui, je vous présente Emmanuel Raoul. Il a 42 ans, il vit à Paris. Emmanuel a travaillé pendant 20 ans comme journaliste dans une chaîne info. Il y a 2 ans et demi, alors en charge de la rubrique web et réseaux sociaux, il fait un burn-out. Après un séjour en Amazonie pour se soigner, il a décidé de cultiver des plantes médicinales.
Fallait oser.
Je m'étais dit, si un jour dans ma vie, je ne vais pas bien, je retournerai à cet endroit qui s'appelle Mayantuyaku et qui est un endroit complètement magique. C'est en passant 15 jours là-bas que j'ai réussi à me reconnecter à la beauté du monde. J'étais tellement mieux après ce séjour que j'ai décidé effectivement d'arrêter le journalisme et de consacrer ma vie aux plantes et en particulier aux plantes médicinales. Pour moi, c'est juste une manière, une forme de reconnaissance. J'ai envie de leur rendre l'appareil, de me mettre à leur service pour diffuser leurs bienfaits le plus largement possible. C'est un projet extrêmement extrêmement large sur la promotion et la diffusion des bienfaits des plantes.
Emmanuel a entamé une formation pour obtenir le diplôme d'herboriste. Il est actuellement en deuxième année de l'école des plantes à Paris.
Et Emmanuel souhaite également lier plantes et racines puisque c'est dans la vieille exploitation familiale abandonnée qu'il compte s'installer dans quelques semaines, un vaste terrain dans le Gard pour y cultiver plantes aromatiques et médicinales. Et il veut désormais vivre au service des plantes qui l'ont guéri et lui ont fait prendre un nouveau chemin.
Bonheur parce qu'en fait, je suis en train de mettre enfin totalement ma vie en accord avec mes principes. Je suis en train de faire quelque chose que j'aime profondément, qui m'apporte surtout beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Tout ce que je fais dans la journée me plaît et me comble, que ce soit les moments où je m'occupe de ma petite entreprise de tisane, que ce soit les moments où je suis en train de préparer mes projets de plantation. Il y a aussi une dimension symbolique pour moi qui est très forte, c'est de reprendre des terres familiales, des terres ancestrales. Je me sens aujourd'hui complètement aligné avec ce que je suis et ce que je dois faire sur cette terre.
Et les premières récoltes, Eva, sont pour 2020. Et sachez qu'Emmanuel a également créé sa marque de tisane bio. Elle s'appelle Unconditional Love by Plants. Oh yeah! J'espère qu'une petite partie de cette récolte sera réservée à l'équipe de Debout les copains.
J'espère bien.
Ça pourrait nous aider à nous décontracter le matin. Parce que je vous sens un peu tendu, les filles.
Non, on n'a pas besoin de tisane, pour tout vous dire.
C'est pas faux.
En revanche, si vous avez aussi changé de métier et que vous voulez
Quand on commence au Ricard à 5h, on n'a pas besoin de tisane.
C'est ça.
Moi, sinon, vous pouvez nous écrire. Hein. Vous nous envoyez un petit tweet avec le hashtag Europe 1 ou un mail.
C'est ça qui est important.
Et les 5h14, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos sérieuses et qualitatives réorchestrées pour flatter vos zygomatiques, un peu comme si Brassens reprenait la compagnie créole.
Décalé-catane.
À suivre, des idées à foison pour le week-end, BD, jeux vidéo, documentaires, c'est l'alléchant programme de vendredi Les Bons Tuyaux, votre shopping list culture. Et puis, vu notre consommation frénétique d'anxiolytiques, l'homo sapiens est-il en train de céder la place à l'homo drogus? C'est le titre d'un livre passionnant qu'a lu pour nous le docteur Ichou, qui nous raconte tout dans votre chronique santé du vendredi, un suppo et on lit. En attendant, je vous offre une séquence de musicothérapie. Voici Georges Ezra et son Shotgun sur Europe 1.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Like a song on a song on a song.
Shotgun, c'était Georges Ezra sur Europe.
Il est 5h17.
Voici les
l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Monsieur Castaner est un menteur en plus d'être un incompétent, a lancé hier à Marseille Jean-Luc Mélenchon. Le ministre de l'Intérieur avait qualifié d'attaque l'intrusion de manifestants de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge de la manifestation parisienne du 1er mai. Des images tournées par le personnel semblent infirmer la version du ministre. Plusieurs témoins avancent que ces manifestants auraient cherché à se réfugier dans l'hôpital pour se protéger des gaz lacrymogènes. Les quatre hommes arrêtés car soupçonnés de préparer un acte terroriste avaient effectué des repérages autour de l'Élysée. Potentielle cible, les policiers en position devant le palais présidentiel. Un commissariat d'Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis a également fait l'objet de repérages. Enfin, au Venezuela, le président élu mais contesté Nicolas Maduro s'est adressé à l'armée. « Nous sommes en lutte pour désarmer tous les traîtres, tous les putschistes », a-t-il déclaré, alors qu'une partie de l'armée s'est soulevée cette semaine contre lui, rejoignant les rangs de l'opposant Juan Guaido.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 3 mai, et à l'heure de lancer la chronique hippique de Thierry Léger, je crois ce matin que je vais abdiquer. Des mois maintenant que j'essaye de décrocher un sourire à Thierry par mes lancements imaginatifs et cocasses, je n'ai jamais vu un seul de ses zygomatiques bouger, ne serait-ce que d'un millimètre.
Il s'en fout complètement de ce que tu racontes.
Je vais finir par croire qu'il est enregistré. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses ce soir en nocturne à Vincennes, et mon pari gagnant sera le 308 Jérimaume. Titulaire du meilleur chrono parmi les 14 partants, ce trotteur de nationalité belge est aussi le propre frère du crack Traders. Certes, il n'a pas le même talent, mais il a assez de qualité pour s'illustrer à Vincennes. N'ayant pas encore les gains en rapport avec ses moyens, et évoluant ce soir sur un parcours de vitesse sur lequel il excelle, nul doute qu'il devrait pouvoir justifier sa position de grandissime favori. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la troisième course, le numéro 8, Jérimaume.
Merci, joli môme, Thierry Léger.
Il est 5h19.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et... Fiefé Canaillou, petite boule de vis, nous y voilà. Votre plongée quotidienne et jouissive dans les coulisses de notre colocation, où la réalité dépasse ce matin la fiction, puisque la nouvelle est tombée hier alors que nous prenions un café après l'émission, Jérôme Lacroix dort nu.
Oh là là, ça va encore me faire craquer.
Eh oui ! Moi qui croyais être grivois avec mes histoires de slip fantasy, j'étais donc encore en deçà de la réalité, puisque GG ne donne pas dans la fantasy, il évolue tout simplement à poil. Jérôme, qui hier soir a dormi nu, mais seul. En effet, Eva avait décidé de faire une petite surprise à Céline en testant le nouveau service de livraison à domicile de Uber, après Uber Eats, Uber Chippendales. Les Chippendales qui viennent comme les œufs, par 6 ou 12. Connaissant l'appétit actuel de Céline, Eva avait opté pour 12.
Ils sont jeunes, non ?
Ils sont... Il y en a un qui a grégé, l'autre, je sais plus.
Oui, enfin, en même temps, on s'en fout, c'est pas ce qu'on leur demande. Un cadeau qui a vraiment fait plaisir à Céline, qui ne savait plus où donner de la tête.
J'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout tester. Par contre, il utilise plein d'épices que je connais pas du tout.
Alors, n'oubliez pas le beurre, on passe au pressing.
Mathieu. Hein ?
Petite préférence cinématographique.
Oui, bien sûr.
Évidemment, et élégante. Et qui passe toute seule à 5h20, si j'ose dire. Oh mon Dieu. Notre world famous revue de presse en mode zapping. À la une de vos journaux ce matin, c'est d'argent dont il est question. De pognon, de flouze, de blé, d'oseille. Le Parisien, par exemple, s'adresse directement au lecteur. Renégociation de prêt, comment faire plier votre banquier ? Ce qui est drôle, c'est que du coup, quand j'ai reçu votre message tout à l'heure à 4h30, j'ai envoyé tout de suite un message à mon banquier. Immédiatement. Comme quoi, Eva, ce que vous trouvez nous sert beaucoup. Le magazine Marianne tire le bilan économique des deux années passées. Macron, pire que Sarkozy et aussi mauvais que Hollande. Mérite d'être clair. Enfin, en manchette de Libération, on peut lire Ascoval, quand l'État le veut, le sauvetage est possible. Libé qui réserve son gros titre aux événements qui se sont déroulés à l'hôpital de la Salpêtrière et écrit « La fake news venait de l'intérieur ». Christophe Castaner appréciera. Mais vous, mes insatiables polissons, qu'avez-vous trouvé de beau dans la presse ce matin, Eva ?
Et si la zone frontalière entre les deux Corées devenait un lieu touristique ? Eh bien, c'est un reportage de La Croix.
Vous avez toujours des bonnes idées.
Non, non, mais qui est assez étonnant. La ligne de démarcation créée en 1953 pourrait effectivement donner lieu à de grands projets touristiques destinés à faire de cette zone militaire une zone de paix. Et l'article débute avec les conseils d'un jeune militaire qui encadre un groupe de 15 journalistes étrangers venus regarder à quoi ressemble cette zone. Vous êtes dans une zone militaire, je vais vous demander de rester silencieux et de mettre bien en évidence votre gilet jaune que les caméras thermiques et à reconnaissance faciale peuvent clairement identifier, et surtout il est interdit de prendre des photos. Alors voilà pour l'ambiance. Après, le reste est assez étonnant. Les visiteurs pénètrent dans une zone démilitarisée sur près de 9 km. Promenade encore interdite il y a un an. Tout a basculé, en fait, affirme un soldat depuis janvier 2018 avec le rapprochement entre les deux Corées. Et étonnamment, à la lisière de cette zone préservée de présence humaine depuis plus de 60 ans et qui est devenue un véritable paradis pour la biosphère avec plus de 2700 variétés animales, eh bien, le tourisme n'a cessé de se développer. Dans quelques semaines, plusieurs chantiers de randonnée vont s'ouvrir. Coréen du bureau de planification... Un Coréen du bureau de planification du tourisme affirme que 6 millions de visiteurs ont été enregistrés l'an dernier, dont près de 40% d'étrangers. Et il assure qu'on va construire un téléphérique, un grand parc d'attractions et de verdure dans cette zone-là. Un vent d'optimisme donc qui ne doit pas faire oublier quand même, hein, qu'il y a 1 million de soldats côté nord et 600 000 côté sud. Voilà.
Écoutez, en tout cas, une belle destination vacances, une belle idée pour nous, Eva.
C'est très étonnant.
J'avais envie de vous emmener quelque part, j'avais envie de vous surprendre.
Mais je vois bien.
Voilà, une belle destination.
Il y a une très belle photo, ça va vous donner envie.
Ça va nous donner envie, effectivement. Céline Dacosta.
Notre-Dame a brûlé, Notre-Dame sera reconstruite et assez vite, hein, si on en croit le président de la République. Eh bien, figurez-vous que dès le lendemain de l'incendie, de jeunes architectes et designers lançaient leurs idées de rénovation sur les réseaux sociaux. Le Parisien aujourd'hui en France en a sélectionné 10 de ses projets. Le premier, c'est celui d'un artiste brésilien qui propose une toiture et une flèche en vitrail pour un effet grandiose avec une lumière comme ça qui illuminerait ses vitraux la nuit, symbole de connexion entre le ciel et la terre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça a l'air joli. Un Russe propose un toit de verre. Un écolo veut replanter la forêt en référence à la charpente du XIIIe siècle qui a brûlé. Donc planter par contre littéralement des arbres sur le toit où on pourrait par ailleurs se promener. On a beaucoup de projets pour la flèche. Des Slovaques proposent une flèche comme un pic blanc avec un faisceau lumineux quasi infini. Un projet poétique qui sera plus impressionnant la nuit que le jour. Une flèche en verre aussi, une autre en cristal et puis une en forme de flamme.
Pour c'est absolument horrible celle-là.
Pour dire le designer français figé le moment du drame d'un goût certain, comme
Il me semblait qu'il y ait des études qui montraient que les Français étaient plutôt opposés au fait qu'on construise une flèche d'un genre nouveau.
Emmanuel Macron a quand même dit qu'on pouvait envisager un geste contemporain.
Ouais. Ah oui,
il a dit ça. Donc,
si Emmanuel l'a dit, alors je me tais évidemment.
Moi, je suis pas contre. Je sais pas ce que vous préférez,
un
truc classique.
Voilà, il faut pas que ça soit un truc trop délirant non plus. Quoi.
On a aussi une idée de jardin suspendu avec la mise en place d'une serre. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et la flèche serait une ruche pour les abeilles de Notre-Dame. Moi, j'aime bien cette idée.
Oui, alors non, ça suffit les abeilles. J'ai plein d'abeilles sur mon balcon. Il y a tellement d'abeilles dans Paris maintenant.
Ça veut dire que ça va bien.
Qu'on peut plus bouffer tranquillement en terrasse sans avoir des abeilles qui viennent sur le melon. C'est agaçant.
En attendant ces possibles rénovations, un projet imaginé par une agence événementielle parisienne pourrait voir le jour. Il s'agit d'une mise en lumière pour faire revivre Notre-Dame, des faisceaux lumineux dirigés vers le ciel qui vont représenter la flèche et les toits qui ont brûlé. Une scénographie qui ne sera pas permanente mais qui séduit à la mairie de Paris et au ministère de la Culture. À faire à suivre, c'est à lire dans le Parisien aujourd'hui.
Et nous la suivrons. Merci Céline. Jérôme Lacroix.
Oui, pour vous parler d'une opération commando qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Nantes et dont West France nous propose ce matin le récit. L'histoire fait parer tout le monde. Avant-hier matin, une cinquantaine de commerçants du centre-ville de Nantes a découvert les vitrines de ces magasins barrées d'inscription. Alors qu'était-il écrit ? Rallumons les étoiles, éteignons les enseignes, ou encore sur la vitrine d'une librairie, les livres éclairent les esprits, pas les vitrines. Ce sont des activistes qui ont agi donc la nuit tombée. Ils protestent contre le fait que ces commerces laissent allumer toute la nuit les lumières en vitrine ou à l'intérieur de leur boutique. Ce sont des membres du collectif RAP, Résistance à l'agression publicitaire, qui dénoncent depuis longtemps la pollution lumineuse nocturne et les nuisances que ça entraîne. Ce qu'ils demandent surtout, c'est que l'arrêté en vigueur soit appliqué. C'est un arrêté qui date de 2013, nous rappelle Ouest France, qui impose l'extinction des feux de 1h à 6h du matin. C'est obligatoire depuis juillet dernier seulement. Mais dans les faits, c'est très peu respecté. Il suffit de se balader le soir en centre-ville pour s'en rendre compte. L'objectif des inscriptions sur les devantures, c'est de sensibiliser les passants à ce gaspillage et de demander que la loi soit appliquée. Côté commerçant, on déplore le fait de se faire un peu justice soi-même comme ça et on se montre embêté par les inscriptions qu'il va falloir effacer. Mais pas d'inquiétude, explique à Ouest France un membre du collectif. C'est écrit au blanc de Meudon, un produit d'entretien qui part avec un coup de chiffon, assure-t-il. Voilà. Faut quand même souligner deux choses. Comme le fait l'article, Nantes est globalement l'un des bons élèves de France en matière de lutte contre la pollution lumineuse. Et une autre info, si le décret sur l'extinction était vraiment appliqué, eh ben ça permettrait d'économiser chaque année l'équivalent de la consommation de 370 000 ménages.
C'est pas mal. Ah bah oui.
Voilà.
Ah, vous en restez sans voix.
Oui, Eva, je vous sens nerveuse.
Non, ça m'agace.
Je le sens tendu. Hein.
Je ne comprends pas pourquoi les magasins laissent les lumières allumées dans
le
monde.
C'est
aberrant. C'est interdit.
C'est aberrant, c'est interdit, ça ne sert à rien. Merci à tous, les amis. Le pressing referme ses portes et à J-1 du rendez-vous d'Eva chez son esthéticienne pour la grande opération de printemps. Je tiens à rassurer toute l'équipe du salon de beauté.
Washington n'exclut pas une intervention militaire si nécessaire.
May God be with us.
Europe 1. Il est 5h27, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec la météo, le journal d'Hélène Zélani. Grisant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Dacosta, de bonnes nouvelles pour les nappes phréatiques, de mauvaises nouvelles pour nous, un ciel pluvieux encore aujourd'hui.
Oui, un petit peu partout déjà ce matin, particulièrement sur un gros quart sud-ouest et puis en remontant vers l'Auvergne, Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. On a de la neige également sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes, partout ailleurs des nuages, quelques ondées possibles. Cet après-midi, les côtes atlantiques et celles de la Manche profiteront de larges éclaircies, surtout d'un temps sec. Partout ailleurs, encore beaucoup de nuages, des averses, particulièrement cette fois-ci entre les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes. Du vent aussi près de la Méditerranée. Et puis un coup de tonnerre sera possible également dans le sud-est et le Jura.
Si c'est qu'un seul coup de tonnerre, ça ira.
Oh, c'est l'expression,
un mot des températures qui baissent encore.
Oui, mais c'est surtout demain qu'on va sentir cette fraîcheur sur la moitié nord, surtout parce qu'on sera souvent sous la barre des 10 degrés. Ce matin, 6 degrés à Aurillac, 8 à Clermont-Ferrand, 10 à Bordeaux. Il en fait 8 également à Paris, 12 à Biarritz et 15 à Perpignan. Et puis cet après-midi, on sera déjà 2 à 4 degrés sous la normale, avec 13 à 17 de grande moyenne, 16 à 20 près de la Méditerranée.
Merci Céline et Varoc.
Europe 1.
Non,
5h, 7h. Mathieu Noël.
On lui a coupé la chic à Eva Rock, car nous n'avons plus le temps. Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui tente de maintenir un cap entre journalisme et surréalisme, mais qui parfois, avouons-le, a du mal.
C'est nous la compagnie des lapins.
L'intervention d'un docteur me paraît nécessaire, ça tombe bien. Marcel Ichoux arrive le vendredi, c'est Bibliothérapie. Marcel nous dégote un livre santé. Aujourd'hui, il s'intitule « Homo drogus ». Il dénonce notre addiction aux psychotropes. Un chiffre fait réfléchir, 25% des jeunes ont déjà consommé des psychotropes avant l'âge de 17 ans.
C'est nous la compagnie des lapins bleus.
Passé 40 ans, je vous dis pas.
Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Toute l'info de ce 3 mai 2019. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Édouard Philippe délocalise Matignon en Charente. Hier, le Premier ministre a vanté les mesures du gouvernement en termes de pouvoir d'achat mais n'a pas franchement convaincu les ouvrières d'une usine de Charentaise. L'intrusion à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, l'opposition très critique vis-à-vis de Christophe Castaner accusé d'avoir parlé d'attaque. Et puis football, on connaît désormais la liste des 23 joueuses qui disputeront le Mondial en France à partir du 7 juin. On va y revenir dans le journal des sports. Matignon délocalisé, Édouard Philippe passe donc une nouvelle journée dans le sud-ouest. Il sera aujourd'hui dans la région d'Angoulême, l'occasion de vanter les mesures gouvernementales prises après le grand débat et surtout celles qui doivent améliorer le pouvoir d'achat des Français. Reste pour ses salariés d'une usine de chaussons à Rivière en Charente, le compte n'y est pas. Jean-Rémy Baudot les a rencontrés.
Dans ces ateliers, on fait des charentaises à la main, un savoir-faire local. 140 salariés, principalement des femmes, des ouvrières à 1200 euros par mois.
Je crois que monsieur le Premier ministre voudrait essayer.
Non, je suis incapable.
Édouard Philippe vient vendre ici le bilan des aides du gouvernement pour le pouvoir d'achat annoncé en décembre. Mais Christelle, dans l'entreprise depuis 25 ans, reste perplexe.
Pour moi, ça n'a rien changé grand-chose. L'histoire des gilets jaunes et compagnie, ça, à mon avis, ça n'a rien fait évoluer, je crois pas.
Dans cette usine, pas d'heures supplémentaires et la prime Macron de 350 euros. Elle la voudrait plus souvent.
Oui, on a eu droit à une petite prime, oui, effectivement. C'est pas énorme, hein. Voilà, c'est pas énorme. C'est toujours mieux que rien, voilà.
Le Premier ministre, lui, vante les chiffres au niveau national.
La prime exceptionnelle, elle a été, là encore, beaucoup utilisée par les entreprises. Le montant moyen des primes qui ont été versées est de l'ordre de 400 euros, ce qui a un impact direct sur le pouvoir d'achat. Les mesures que nous avons mises en œuvre en décembre commencent à produire leur effet. Cet effet est notable.
Édouard Philippe repartira avec des charentaises bleu, blanc, rouge brodées à son nom. Rivière, Jean-Rémy Baudot, Europe 1.
On a hâte de voir la photo officielle. Édouard Philippe l'a annoncé hier, le permis de conduire devient moins cher.
Oui, les candidats pourront l'obtenir plus vite et en déboursant 30% de moins. Sachant qu'à l'heure actuelle, il faut compter 1600 à 1800 euros parmi les mesures phares. Un forfait de 10 heures de pratique sur simulateur et 10 heures de conduite classique. Que s'est-il vraiment passé le 1er mai à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Les témoignages des soignants et plusieurs vidéos contredisent la version des autorités, notamment celle du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui parlait d'attaque.
attaque. Il s'agirait plutôt de manifestants voulant échapper au gaz lacrymogène qui aurait tenté de se réfugier dans l'hôpital. Une enquête est ouverte et la trentaine de personnes placées en garde à vue ont été libérées. Du côté de l'opposition, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise qualifie Christophe Castaner de menteur et le républicain Bruno Retailleau lui demande de cesser de mettre de l'huile sur le feu.
Europe 1, il est 5h33.
Soulagement pour les 270 salariés de l'acierie Ascoval.
Oui, le tribunal de grande instance de Strasbourg choisit l'entreprise British Steel pour reprendre l'usine de Saint-Saulve dans le Nord. Des salariés enfin fixés après 4 ans de lutte pour le représentant CGT. Maintenant, le plus dur reste à venir, remplir le carnet de commandes et surtout être attentif aux conditions de travail. Si vous voulez vous balader dans les gorges de l'Ardèche cet été, sachez que l'alcool y sera à nouveau interdit. Pour la 9e année consécutive, la préfecture prend cet arrêté sur le site touristique. Ça commence dès maintenant et c'est jusqu'à la fin septembre. Et ben, ça concerne quand même potentiellement 1,5 million de touristes. Pour les contrevenants, ce sera 38 euros d'amende et la bouteille confisquée. François Souliman, préfet de l'Ardèche.
Nous, ce que l'on souhaite, c'est évidemment que la rivière soit un plaisir. Il y a malheureusement souvent des accidents qui peuvent être même mortels. Les rapides sont souvent extrêmement dangereux. Des comportements addictifs avec de l'alcool dans le sang forcément rendent plus dangereux l'exercice de ce sport. L'année dernière, malgré cet arrêté, il y a eu 170 litres d'alcool qui ont été pris par la gendarmerie et 65 contraventions qui ont été dressées. Donc, ce qui veut dire que malgré la prévention, il y a quand même des contrôles et de la répression parce que cet arrêté n'est toujours pas suffisamment respecté.
Un propos recueilli par Jean-Gabriel Bourgeois pour Europe 1. Et puis, un grand acteur, c'était un grand surtout au sens de la taille, car son visage, on ne le connaissait pas. Le Britannique Peter Mayhew avait 74 ans et avec ses 2,21 m, c'est lui qui endossait le costume de Chewbacca dans Star Wars, cette bête à longs poils et aux cris bizarres, fidèle compagnon de Han Solo. Ces cris de Chewbacca étaient, sachez-le, un mélange de grognements d'ours et de sons de morse, de lion, de tigre, de chameau, de blaireau et de lapin.
Ouais, c'était quand très même technique. Hein. Très intéressant. Merci, c'était le journal d'Hélène Zelani. Et on parle toujours cinéma. Hélène qui a été très affectée par la disparition avant-hier de la comédienne Anémone, dont elle connaissait toutes les répliques par cœur. Enfin, presque par cœur, preuve qu'à un mot près, une réplique ne fonctionne pas du tout. Ah oui, Hélène, petite info, posez votre main sur le micro, ne suffit pas pour étouffer le son, on entend très bien quand même.
Il y a une dame qui a appelé, elle voulait enculer Thérèse. Non, pas une dame. Il y a un monsieur qui a appelé, il voulait enculer Thérèse.
Oui, mais c'est un ami. Effectivement, si c'est une dame, là, ça ne fonctionne plus. Je vous présente Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports. À la une, GG, l'histoire d'un chemin tortueux.
Eh oui, mais elle est arrivée à bon port, la bleue du foot, Gaëtan Tinet, 33 ans. Elle est la doyenne de l'équipe de France. Et oui, la Troyenne va disputer dans un mois et 4 jours en France. La 3e Coupe du Monde de sa carrière, elle fait partie des 23 retenues. C'est officiel depuis l'annonce hier par la sélectionneuse Corinne Diacre. Pourtant, c'était pas gagné. Écartée des Bleus après le dernier mondial, elle a été rappelée, puis écartée à nouveau au gré des sélectionneurs. Mais au sein de son club de toujours, le Paris FC, la récompense des efforts hier soir, elle l'a vue lorsqu'elle a constaté que son nom était bien sur la liste.
C'est toujours un moment très sympathique à vivre. Voilà, moi, je suis sur Paris, mais je sais que ma famille était réunie pour le vivre ensemble. Et c'est vrai qu'au regard de mon parcours, qui est un petit peu original avec l'équipe de France, c'est beaucoup de bonheur.
Une absence surprise dans cette liste, celle de Marie-Antoinette Katoto, 20 ans, espoir du PSG, meilleure buteuse de D1, 22 buts. La sélectionneuse la juge encore trop jeune, trop tendre. Début de la préparation au Mondial, mercredi prochain.
Elle avait une tendance à perdre la tête.
Qui ça?
Marie-Antoinette.
Ah, oh oui, d'accord, j'avais pas compris.
La vanne a été appréciée, et ça me fait plaisir.
J'avoue que je l'avais pas. Bon, début de la préparation au Mondial, mercredi prochain, stage en Bretagne, premier match de la Coupe du Monde, France-Corée du Sud, le 7 juin au Parc des Princes. Les Françaises visent au moins la finale, mais en fait, elles visent le titre mondial.
Bon, j'espère bien.
Mais oui.
Ah, je ne veux rien que moins que ça. Moi, je prends mes places et je veux qu'on aille au bout. Côté garçon, deux clubs de Londres en ballotage favorable pour la finale de la Ligue Europa.
Arsenal et Chelsea, victoire 3-1 d'Arsenal sur Valence hier soir en demi-finale aller. Le français Lacazette a inscrit 2 buts pour Arsenal. Giroud et Kanté ont, eux, ramené un bon nul 1-1 de Francfort avec Chelsea. Match retour jeudi prochain. Le cyclisme et le Suisse Stéphane Kung de l'équipe Groupama FDJ remporte la 2e étape du Tour de Romandie, arrivé sur les rives du lac Léman. Le Slovène Roglic reste maillot jaune.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
On attend de ses nouvelles dans la journée. Le français Kevin Roland, spécialiste de ski freestyle, est hospitalisé à Grenoble dans un état grave mais stabilisé. Selon son entourage, il a fait une lourde chute hier alors qu'il tentait de battre un record du monde. Les précisions de Marie Guida.
Kevin Roland, médaillé de bronze olympique en halfpipe en 2014 au JO de Sochi, est tombé mardi lors d'un entraînement à La Plagne. Il aurait fait une chute de plusieurs mètres de haut. On ne connaît pas encore les circonstances exactes de son accident, mais il semblerait que Kevin Roland tentait de battre le record du monde de saut à ski acrobatique, un record établi à 10,80 m. Il est en ce moment hospitalisé à l'hôpital de Grenoble dans un état grave mais stable. Le skieur de 29 ans souffrirait de plusieurs fractures, dont une au bassin. La famille ne souhaite pas communiquer pour le moment, mais un compte-rendu médical devrait être publié aujourd'hui.
Marie Guida.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix, couvé du regard par une Céline Dacosta, toujours aussi admirative de ses talents journalistiques. Hein, Céline, on peut le dire, vous adorez Jérôme, vous êtes sa principale turiféraire.
Non, non, moi je suis juste à stigmate, mais la correction oui, est très,
non,
très légère.
Non, hein. C'est juste pas ce que je voulais dire, passons.
Europe 1.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures à mi-chemin de l'info et de l'humour, porté par ma verve inimitable. D'ailleurs, le saviez-vous, Jean-Pierre Marielle avait failli venir me rendre visite. Il avait dit oui, puis...
Oh, puis non. Finalement, je ne me sens pas de taille à lutter avec un type aussi beau, aussi intelligent, aussi drôle.
C'est ça qui est bien avec les sons, on leur fait dire ce qu'on veut. À suivre, adieu Homo sapiens, bonjour Homo drogus. C'est le titre d'un livre choc qu'a lu pour nous le docteur Ichou et qui dresse un constat aussi effrayant qu'implacable. L'homme moderne est en train de devenir accro aux psychotropes.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
L'heure de faire un point sur la météo, Céline. Un ciel couvert et pluvieux nous attend aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Bien nuageux ce matin sur une moitié sud avec des averses fréquentes des Landes à la Franche-Comté puis en remontant jusqu'en Alsace. Plus au nord, nuages éclaircis et là aussi des ondées. Même topo pour cet après-midi avec quand même un petit peu plus d'éclaircies au milieu de tout ça. Soleil par contre qui va résister toute la journée sur les côtes d'Atlantique et près de la Manche où on aura même un temps sec. Quant aux températures, elles baissent encore un petit peu. La moyenne cet après-midi ira de 13 à 17 degrés. Un petit peu plus près de la Méditerranée, mais c'est surtout demain et jusqu'à lundi qu'on va pouvoir bien ressortir les doudounes, voire les bonnets, avec pas plus de 10 à 12 degrés l'après-midi sur la moitié nord. Un petit degré est attendu en moyenne en matinée pour lundi.
Merci Céline. Tout à l'heure, je coupais la chic à Eva Rock. Je la lui recolle.
Merci beaucoup. C'est la journée du soleil. Alors depuis ce matin 5h, on vous demande à quoi vous pensez quand on vous dit simplement le mot soleil. Eh bien, Yann nous dit farniente, ce que je peux comprendre tout à fait. Carlisa nous dit la vie, la bonne humeur, la chaleur, la plage, les sorties, les longues
chaleur.
Journées et les fruits, voilà. Carole nous dit le soleil, c'est le bonheur simplement et il serait temps qu'il s'installe. Nous sommes d'accord. Et puis vous êtes très nombreux à nous dire que le soleil, ça vous fait penser à cette chanson.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle.
Oui, non, ça c'est une de mes chansons préférées, on peut l'écouter, on peut la laisser si vous voulez. Et puis.
Mais vous continuez à réagir sur Twitter avec,
cette chanson.
Avec le hashtag Europe 1.
Merci à tous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est l'heure de notre rubrique santé. Bonjour Marcel Ichoux.
Bonjour Mathieu.
Et le vendredi, c'est une rubrique littéraire, un suppôt et on lit. Avec vous Marcel, quel livre nous conseillez-vous ? Ce matin, je crois que c'est un livre dédié à Eva Rock.
Oui, exactement, puisque le livre du jour, c'est Homo Drogus, de Roland Gori et Hélène Fresnel. Je vois pas pourquoi le lien avec Eva, mais bon.
Mais il y avait juste Drogus dedans, vous avez le mot drogue, moi, m'inspire très vite.
C'est ça, ouais.
Les auteurs analysent la tendance de la société occidentale à biomédicaliser nos comportements,
c'est
nos émotions,
vous, hein.
Oui, voilà.
Ce qui aboutit à une consommation excessive de médicaments. Ce phénomène repose sur une normalisation des comportements individuels et le fantasme d'éradiquer totalement la souffrance et la maladie, voire d'éradiquer la mort. Cette dérive conduit à traiter tous les comportements par des petites pilules, le sommeil, la forme, l'humeur, l'érection.
Vous voyez, c'est encore vous, c'est pas moi.
L'érection, vous en prie, mais à quoi faites-vous référence ?
S'il est légitime d'éviter de souffrir dans la durée, toute souffrance ne peut pas instantanément être supprimée. Cette surconsommation de médicaments aboutit à une véritable addiction, parallèlement à une autre addiction, celle de l'addiction numérique. Si nous n'y prenons pas garde, le risque d'être drogué nous guette.
Comment expliquer ce phénomène, Marcel ?
Eh bien, il existe une nouvelle idole qui est née dans nos sociétés, c'est la science. C'est prouvé scientifiquement et le leitmotiv de tous ceux qui veulent nous vendre des produits ou des thérapies. La réalité est que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours essayé d'échapper au mal, à la maladie et d'accéder au bonheur. Il ne s'agit pas de science, mais d'une parodie de science.
science. C'est du Canada Dry dont on sait maintenant qu'il n'a aucun intérêt.
Merci Marcel Ichou. Je
peux rappeler le titre du bouquin.
Mais je peux rappeler le titre du bouquin. Vous savez qu'on est à la radio, donc les gens nous entendent. Si vous chuchotez, les gens vous entendent pareil. C'est donc le livre Homo Drogus de Roland Gori et Hélène Fresnel, édition HarperCollins. Ça va Eva, je l'ai bien dit, on a dit le titre.
C'est super. Parfait. Merci Mathieu.
Marcel, on vous retrouve lundi pour un nouveau Point Santé. Mais
chut. Europe 1.
Il est 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains. Chut. Le 5-7 de tous les possibles à la lisière du journalisme et du music hall. Vous avez aimé les victoires de la musique. Hier, c'est avec une immense fierté que nous vous avons présenté les défaites de l'humour. Beaucoup de nommés, mais un seul vainqueur net. Ma vanne sur le Yorkshire.
C'est le nouveau sponsor étrenné aujourd'hui sur le Tour du Yorkshire.
Le Tour du Yorkshire, c'est le tour d'un chien, ça doit aller vite. Sur les autoroutes de l'information, l'actu culturelle va vite. Ne restez pas sur le bas-côté. Écoutez vendredi les bons tuyaux, des bandes dessinées pour tous les goûts, des jeux vidéo en pagaille, des documentaires édifiants. Ça vient, mais juste avant, allez, reste. Vianney et Boulevard des Arts sur Europe 1.
J'ai les souvenirs qui toussent et la mémoire qui bégait. Le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer. Ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance. J'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux. Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas de géant. Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles. Allez reste encore un peu. Toi et moi devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi devenir mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi faire au mieux.
C'était Boulevard des Arts et Vianney sur Europe 1.
Il est 5h46. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Monsieur Castaner est un menteur, en plus d'être un incompétent. A lancé hier à Marseille Jean-Luc Mélenchon. Le ministre de l'Intérieur avait qualifié d'attaque l'intrusion de manifestants dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge de la manifestation parisienne du 1er mai. Des images tournées par le personnel semblent infirmer la version du ministre. Plusieurs témoins avancent que ces manifestants auraient cherché à se réfugier dans l'hôpital pour se protéger des gaz lacrymogènes. La stupéfaction de tout un quartier dans la ville d'Aniche, dans le Nord, un adolescent de 15 ans a été tué par balle à son domicile dans la nuit de mercredi à jeudi, un jeune homme a été placé en garde à vue. Enfin, on apprend cette nuit le décès de Peter Mayhew, acteur dont le nom ne vous dit peut-être rien, mais son rôle le plus célèbre, c'est celui de Chewbacca, extraterrestre légendaire de la saga Star Wars, le Wookiee. Il avait 74 ans.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce vendredi 3 mai. Et à l'heure de passer au pronostic hippique de José Covès, Eva Rock tremble pour lui, car elle sait que malgré son éloquence, José a un point faible, le Beaujolais.
Sa constance, son grand jockey, tout est bon dans...
Oula, comment qu'est-ce qu'il y a ?
Chez Dégrisement, le numéro 6.
Il a ripé sur Dégrisement.
À la bonne vôtre, José.
Oui, à la santé d'Eva et ma santé aussi. Retiens la nuit à Vincennes, à 20h15, les 14 trotteurs de la troisième course dans un départ lancé devront parcourir 2100 mètres sur la grande piste. 5 priorités. Le 8, Jérémome, il vient de réaliser un super chrono sur ce même tracé, c'est le cheval à battre. Le numéro 2, défi des pistes, est superbement engagé, mais souvent décevant. Coup de poker. Le 11, Calius des Bosques, n'a jamais été aussi fort, il peut même tenir tête au meilleur. Le driver Eric Raffin va tirer la quintessence du 12, 2 étoiles GD. Quant au 4, Davina Ducapre, si elle ne pète pas les plombs, elle finira parmi les 4 premiers. En cas de défaillance, le numéro 1, Once for All Face, avec un super Johan Lebourgeois aux commandes. Enfin, le 10, une étoile gare et le 6 digne et droit, surtout pour la 5e place. Mon ticket pour la 3e course vers 20h15. D'abord le 5, le 8, le 2, le 11, le 12 et le 4 et ensuite l'As, le 10 et le 6.
Mais la question, la seule question, José, c'est Gérimond, le 8, peut-il être battu ?
Toujours la bonne question, je ne sais pas comment vous faites. Disons que la dernière fois, il n'aurait jamais dû être battu sur ce parcours de vitesse. Maintenant, une course reste une course avec tous les aléas que cela comporte. Cela dit, Mathieu, Gérimond, le 8, doit finir au mieux premier, au pire deuxième.
Ah, voilà, bah, au moins, on est sûr. Merci beaucoup, José Coves.
Il est 5h48.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici vendredi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour les jeux vidéo et pour la bande dessinée, celui qui a su prendre le leadership du service culture d'Europe 1, ou plutôt le vice-leadership puisqu'il est le prestigieux vice-chef adjoint délégué, Mathieu Charrier le sait, être un bon chef, c'est savoir bien répartir les sujets entre les journalistes, c'est savoir trancher dans les grandes décisions éditoriales, mais c'est surtout savoir mettre l'ambiance au pot du CE.
C'est la merguez. Merguez parti. Tout cas de la braise.
Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour.
Quel ambianceur de folie. On commence Mathieu, parce que vous nous parlez bande dessinée le vendredi, par la nouvelle BD d'Anki Bilal. Comment on dit ? J'ai jamais su.
À votre avis ?
Je dirais Anki Bilal.
Allez. dans sa langue, Anki.
Anki Bilal. Ça s'appelle Bug, oui. Tome 2.
C'est ça. Je vous résume très rapidement le tome 1, puisque vous ne l'avez pas lu.
Non.
On est en 2041, la Terre est touchée par un bug géant, il n'y a plus d'Internet, et un homme, un extraterrestre qui revient de Mars, détient en lui toutes les données du monde, toutes nos données en quelque sorte. C'est Cameron Hobb, astronaute qui par ailleurs a une très très grosse tache bleue sur le visage, et toutes les mafias évidemment veulent le récupérer, si bien qu'ils ont kidnappé sa fille, ça c'est le début du tome 2, lui est bien décidé à la retrouver. Alors évidemment il y a tout un côté thriller, course-poursuite, coup de feu, coup bas, mais ce qui est intéressant également, au-delà du graphisme toujours magnifique chez Bilal, c'est que l'histoire, je vous le disais, se passe en 2041, c'est-à-dire demain ou quasiment après-demain, et ce futur proche permet à l'auteur d'ausculter notre société, son rapport aux technologies, aux données justement, Clément Le Saffre, et puis tout simplement au réseau internet, qu'est-ce qui se passerait si demain tout le réseau se retrouvait hors service, évidemment les avions seraient clos, sol, les communications impossibles. Bref, c'est à la fois effrayant et passionnant. Plongez donc dans ce bug tome 1 et 2, tant qu'à faire, relisez les deux. Le 2 vient de sortir, il est signé Anki Bilal chez Kastlerman.
Oh, vous m'avez encore donné envie Mathieu, c'est
fou. Ça tombe bien, et là vous allez voir ce qui suit. Là.
Deuxième choix, voilà. La nouvelle BD de l'auteur Fab Caro.
Qui avait cartonné il y a quelques années, vous l'aviez peut-être lu, avec Zai 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 Zai. C'est une BD d'humour sortie chez un tout petit éditeur qui a été vendu à 170 000 exemplaires, c'est vous dire, c'est vraiment de l'humour absurde. Alors là il publie Open Bar, sa nouvelle bande dessinée qui pour la première fois reprend un peu la même structure que Zai 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 Zai, c'est-à-dire une histoire par page, qui ne brille souvent pas, faut le dire, par le dessin, mais plutôt par les dialogues. Alors vous avez par exemple, première scène, un journaliste télé, sorte de critique littéraire, coucou Nicolas Caro, qui interroge un écrivain et souligne à quel point l'une de ses phrases est poétique, magnifique. Il cite la phrase « Elle était bielle sur un plan médiéval d'apiculteur ». Et l'auteur de lui répondre « Ah oui, non mais là en fait c'est une erreur, c'est une faute de frappe parce que je l'ai écrit sur mon smartphone ». Il y a aussi cette scène, des amis à table, un de ses cris « Les bougnoules, je les foutrais tous dans un charter » et hop, malaise, sa femme se tourne vers lui « Mais qu'est-ce qui te prend ?» Et lui de répondre « Bah tu m'as dit qu'on dînait chez un raciste. » « Mais non, chez un graphiste !» Dernière scénette, ces deux politiques qui s'affrontent sur un plateau télé à coups de « Les Français veulent ci, les Français exigent ça, les Français pensent que… » Si bien qu'au bout d'un moment, deux mots seulement sortent de leur bouche, « Les Français, les Français, les Français, les Français, sans rien autour. » Voilà, c'est l'humour de Fab Caro que vous retrouvez donc dans Open Bar, c'est publié chez Delcourt Collection Patacès et c'est sous-titré « Première tournée, bonne nouvelle, on espère qu'il y en aura d'autres. »
Merci beaucoup. Je cultive quand même un regret, c'est que vous ne m'apportez jamais ces bandes dessinées.
Mais je ne les reçois pas en double, il faut bien que je les mette dans ma bibliothèque.
Je ne les reçois pas en double. Mon Dieu, qu'il est pingre. Nous passons tout de suite aux jeux vidéo avec vous, Clément. Clément Le Saffre, ce matin, vous nous annoncez une bien triste nouvelle, Clément. La Nintendo 3DS vit ses dernières heures.
Oh. Ah oui, il y aura peut-être des joueurs, peut-être ici même autour de cette table, hein, qui vont peut-être verser une larme.
C'était la Game Boy Nintendo, là ?
Non, la 3DS, il faut avancer un petit peu maintenant, il faut grandir. Donc Nintendo qui vient d'annoncer qu'elle ne prévoit de sortir aucun jeu maison sur sa console portable dans les mois et années à venir. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de nouveaux jeux sur la 3DS, simplement ce seront des jeux d'éditeurs tiers, pas des jeux brandés Nintendo. Or, la force des consoles de Nintendo depuis toujours, c'est justement
les jeux maison,
exactement, avec les héros qu'on connaît tous, Mario, Luigi, Kirby, Link ou encore les Pokémon. Donc quand Nintendo annonce qu'elle ne créera plus de jeux pour la 3DS spécialement, bah, c'est un peu comme si elle plantait le dernier clou dans le cercueil de sa console.
L'image est belle, Clément. Ouais. Que retiendra-t-on de cette 3DS ?
Ah bah, en 2011, elle avait succédé donc à la DS classique, qui avait pris, elle, la suite de la saga Game Boy, Mathieu Charrier. La 3DS, elle a connu un petit succès public quand même, puisqu'il s'en est écoulé 75 millions d'exemplaires en 8 ans. C'est pas mal, mais c'est quand même 50 millions de moins que la DS qui venait avant elle. Et puis surtout, bah, la 3DS n'a pas vraiment réussi à imposer de jeux cultes, hein, parmi les 10 jeux les plus vendus sur la console. On ne trouve que des suites de sagas déjà très célèbres et aucun d'eux n'a vraiment marqué l'histoire. C'est du Mario Kart, c'est du Super Mario, c'est du Pokémon, c'est du Animal Crossing. Bref, c'est du classique et il n'y a aucun épisode spécial qu'on retiendra sur cette 3DS. Et sans ces jeux cultes, bah, c'est difficile de se forger une véritable identité.
Et est-ce qu'on sait si la 3DS aura une remplaçante, Clément ?
Alors, sauf énorme surprise, il n'y aura pas de nouveau modèle de console portable propre dans la lignée des Game Boy et des DS, justement.
Attendez, stop. La Switch, c'est quoi ? C'est pas portable ?
La Switch, c'est entre les deux, justement.
C'est, ça devient vraiment compliqué.
La Switch, on la branche chez soi, on peut la brancher sur une prise et jouer sur sa télé.
Mais on peut pas la
et on peut l'emporter. Alors, justement, et c'est là que c'est intéressant, Mathieu.
Dites-nous.
Puisque, justement, Nintendo pourrait envisager de modifier un peu sa Switch, d'en sortir une nouvelle version, cette fois uniquement dédiée aux jeux portables. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de quoi la brancher sur sa télé. Elle serait en fait plus petite, puisque aujourd'hui la Switch, effectivement, on peut l'emmener partout avec soi, mais elle est un petit peu lourde, elle est un peu encombrante, elle fait quand même 20 cm à peu près.
Il faudrait dire à Nintendo que c'est une console que je puisse jouer avec pendant, par exemple, qu'Eva fait une chronique, je pourrais comme ça avoir ma Switch à l'antenne.
Parce que là, aujourd'hui avec la Switch, c'est pas très discret, Eva, elle peut vous voir par-dessus les écrans, la Switch est un peu trop grande. Alors qu'avec une Switch Lite, ce qu'envisage Nintendo aujourd'hui, Eva, on serait sur quelque chose de plus petit, à peine plus grand qu'une 3DS. Et donc ça, ce serait peut-être l'avenir de la console portable pour Nintendo. Voilà.
Espérons-le. Merci Clément Le Saffre pour ces infos jeux vidéo. Eva Rock.
J'hésite.
Ah oui, oh, elle boude.
Oui, je boude. Non, c'est une petite pépite que je vous conseille ce matin qui est à découvrir sur le site d'Arte et uniquement sur le site. Ça s'appelle The Lost Ones. C'est une série de web documentaires qui est écrite, réalisée par Mathilde Hirsch qui assure également la voix de ce programme de 6 minutes. En fait, ce sont 10 épisodes qui sont nourris d'archives pour découvrir 10 personnages aux destinées incroyables. Ils sont peu connus de l'histoire et pourtant leur parcours mérite qu'on s'y arrête, d'autant qu'ils nous racontent aussi l'époque, comme Séraphine de Senlis. On est dans les années 30, Séraphine est femme de ménage, elle est analphabète, très pieuse, et un jour alors qu'elle prie, un archange apparaît et lui envoie un message, elle doit se mettre à peindre. Et elle file acheter du matériel.
Dans sa minuscule chambre de bonne, elle se met au travail. Elle peint d'abord à sa manière, fabriquant ses propres mixtures, inventant ses propres techniques. Et très vite, son génie s'exprime. Elle peint des fleurs, des plantes, des marguerites, du muguet, des myosotis. Elle peint comme poussée par une injonction venue d'en haut, une grâce divine.
Elle ne cesse de peindre et elle finit par se faire remarquer par un mécène.
En 1912, s'installe à Senlis un grand collectionneur d'art allemand, Wilhelm Hude. Lui qui a découvert Matisse et Picasso, Braque et le douanier Rousseau, cherche une femme de ménage. Il embauche Séraphine. Un soir, il découvre ses tableaux. Hypnotisé par les toiles fraîchement peintes, fasciné par les éclats et les nuances, il n'arrive pas à croire que sa bonne a produit ses œuvres, si maîtrisées et démentes.
Alors la suite, elle est un peu moins glamour parce que certes, Séraphine de Senlis est devenue une peintre importante de l'art naïf, mais elle va sombrer dans la folie et elle terminera internée. Chaque chapitre de cette série de films... Chaque chapitre de cette série de films raconte ainsi une histoire vraie, comme Paul Grapp, qui était déserteur de la Grande Guerre, qui se travestit pour échapper à sa condamnation et s'impose dans les cabarets de Pigalle, ou encore Tsutomu Yamagishi, écoutez bien, qui le 6 août 1945 est en déplacement d'affaires à Hiroshima, quand explose la bombe nucléaire, il est traumatisé, il fuit cette scène d'apocalypse pour rentrer chez lui à Nagasaki. Un ton, les histoires sont incroyables, c'est 6 minutes à chaque fois, avec un ton résolument moderne, vous avez vu, avec de la musique électro, qui est portée par cette musique, pour raconter des dessins du XXe siècle, ça s'appelle The Lost Ones, et c'est une réussite à découvrir sur Arte.
Mathieu Charrier. Sur Paul Grapp, il y a une très bonne bande dessinée de Chloé Cruchaudet, et un très bon film d'André Téchiné.
Ah oui, c'était le film de Téchiné, je me disais que ça me rappelait quelque chose.
C'est quoi ? J'appelle ça la synergie européenne.
Ouais. Bah oui, voilà. C'est magnifique. Bien équipe, monsieur.
Merci beaucoup Eva Rock, merci à toute l'équipe des bons tuyaux qui se reformera lundi. Et mon petit Clément, je sais que la période que vous traversez n'est pas facile, j'ai été adolescent moi aussi, dans les soirées, c'est vrai qu'il y a plus de mecs que de filles, mais vous vous amusez quand même.
Mardi c'était les mecs, ouais, on tourne les uns après les autres, il n'y a personne qui aime ça quoi, donc on enchaîne.
Ça n'a pas changé l'adolescence, c'est toujours compliqué.
Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans De Fous les Copains, votre météo avec Céline Acosta et le journal de 6h de...
Céline Kallmann. Il est 5h58, Mathieu Noël.
Oui, on fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. La fraîcheur s'amorce, on perd encore quelques degrés cet après-midi.
Oui, mais c'est surtout demain qu'on va sentir cette fraîcheur. Sur la moitié nord, on sera souvent sous la barre des 10 degrés. Ce matin, 6 degrés à Aurillac, il en fait 8 à Clermont-Ferrand à Paris, 10 à Bordeaux, 12 à Biarritz et encore 15 à Perpignan. Et puis cet après-midi, déjà, ça baisse un peu. 2 à 4 degrés sous la normale de saison, 13 à 17 degrés en moyenne et puis 16 à 20, toujours près de la Méditerranée.
Côté ciel, aujourd'hui, ce sera encore nuageux et souvent pluvieux.
Oui, un petit peu partout déjà ce matin, mais particulièrement sur un gros quart sud-ouest et puis en remontant vers l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. On a de la neige également sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes. Partout ailleurs, des nuages et quelques ondées possibles. Cet après-midi, les côtes atlantiques et celles de la Manche vont profiter de larges éclaircies, surtout d'un temps sec. Partout ailleurs, encore beaucoup de nuages, des averses, particulièrement entre les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes. Du vent près de la Méditerranée, quelques coups de tonnerre seront possibles dans le sud-est et le Jura. Et entre tout ça, on aura quand même quelques éclaircies, mais elles resteront timides.
Merci beaucoup, Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.